Au Dakota, j'étais tranquille. J'avais hérité de l'appartement d'une sœur de mon père et d'un petit paquet d'argent. Habiter au Dakota entraîne certains frais. Quand la copropriété veut rénover et tomber les caves, vous avez intérêt à pouvoir suivre. Jusque-là, j'avais toujours vécu chez ma mère dans un village de l'ouest de la France. J'étais ébéniste, j'avais mon atelier, tout allait bien. J'ai eu une enfance bénie avec ma mère qui était veuve. Et j'aurais pu me satisfaire de continuer comme ça. Ma mère admirait mon travail, surtout les petites boîtes embarquées très fines. Elle m'en a d'ailleurs beaucoup voulu de mon départ. Elle détestait ses belles-sœurs. L'américaine. Mais je n'ai pas résisté à l'appel du Dakota. La mort de cette tante a littéralement changé ma vie. J'ai laissé tomber mon boulot, j'ai traversé l'Atlantique et ma principale activité a désormais consisté à habiter le Dakota. Le Dakota est un des plus beaux immeubles de Manhattan, au coin de Central West et de la 72e rue. Boris Karloff, Lorraine Bacall, Judy Garland et bien d'autres habitaient le Dakota au moment où j'y ai aménagé. Polanski y a tourné la plupart des scènes de Rosemary's Baby. Les planchers sont en ébène et en merisier et la hauteur sous plafond dépasse les 4 mètres. Il s'appelle le Dakota, paraît-il, parce qu'en 1881, année de sa construction, ce coin-là de Central Park semblait aussi désert et lointain que les territoires du Dakota. Au coin de l'immeuble, il y a d'ailleurs une statue d'Indien Dakota qui guette, comme une vigie à la proue d'un bateau. Quand on hérite d'un appartement au Dakota, même d'un petit 5 pièces comme le mien, on se renseigne, on apprend des choses. Je suis devenu un obsédé du Dakota. C'était moi le gardien du temple. J'en savais plus sur cet immeuble que Leonard Bernstein lui-même, qui vivait là depuis tout petit. Par exemple, le Dakota est bâti suivant les principes de l'architecture française. Il dispose, fait remarquable à Manhattan, d'une porte cochère. Les pièces communiquent par des portes en suite, typiquement françaises. Et dans les occasions festives, on peut passer de pièce en pièce de façon naturellement conviviale. J'ai lu ça dans un guide. Ma mère a pris l'avion pour la première fois de sa vie pour visiter mon nouveau logis. Elle a dit en hochant la tête...
Mais c'est un immeuble fait pour les fantômes. Toutes ces portes leur facilitent la vie.
Le matin, je me levais, je me faisais du café, et mes premières pensées étaient déjà hantées par le Dakota, par la chance que j'avais d'habiter cet immeuble. Je déambulais dans mes 5 pièces, j'observais les nuances du parquet, la subtilité des finitions, la délicatesse des plaintes, et je levais la tête vers le plafond. Et puis, je regardais le parc par ma fenêtre, et je n'en revenais pas de ma chance. Habiter le Dakota sur Central Park, être l'unique héritier d'une habitante du Dakota. Je disais bonjour à ma mère au téléphone. Pour elle, en France, c'était l'après-midi, et pour moi, la journée commençait. Mon ravissement était un peu gâché par la pensée parfois que j'aurais pu avoir plus grand. L'appartement du dessus comptait pas moins de 20 pièces. Ou que j'aurais pu, avec mes 5 pièces, me trouver plus haut, sous les toits, bénéficier d'une vue encore plus dégagée sur le parc, et limiter le nombre de voisins, parce que faut savoir une chose. Au Dakota, comme dans tous ces vieux immeubles autour de Central West, c'est mal insonorisé. Polanski, avec son film, nous avait déjà causé beaucoup de dérangements. Pourtant, j'étais plutôt tranquille. Ma mère ne me manquait pas. J'éprouvais même un certain soulagement. Et puis, l'appartement du dessus était vide. Vide depuis des années. Qui peut s'offrir 20 pièces sur Central Park de nos jours? Et puis, sont arrivés mes nouveaux voisins. Au début, je ne me suis pas méfié. Pas d'enfant. Lui, un peu terne derrière ses lunettes. Elle, petite, dynamique, asiatique. Bon, je n'ai rien contre les Asiatiques, ni contre les Noirs ou les Juifs, ni contre les homosexuels, soit dit en passant. Mais je ne fais que constater. C'était la seule habitante de couleur du Dakota. Et lui, il avait les cheveux longs. Pourtant, personne n'a émis le moindre signe de contrariété. Non. Tout le monde semblait très content de ces nouveaux arrivants. Il y a eu une première alerte très vite après leur emménagement. Un attroupement sous mes fenêtres. Des gens qui criaient « John! John !» Je m'appelle pas John, mais je pensais à des amis qui n'arrivaient pas à convaincre le gardien de leur ouvrir. Faut dire que depuis que j'habite le Dakota, j'ai beaucoup d'amis qui viennent dormir dans les pièces du fond. Mais dont certains, je m'en aperçois de temps en temps, ignorent mon prénom. Enfin, ce sont surtout des amis de Marco. Marco, ça fait longtemps que je le connais. Il m'a suivi jusqu'à New York quand j'ai emménagé au Dakota. Mon voisin du dessus s'est penché à sa fenêtre, au-dessus de la mienne. Il a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Ses copains en bas se sont mis à crier John encore plus fort. L'Indien Dakota n'était plus le seul à faire le guet au coin de la rue. On aurait dit qu'il venait chaque jour de plus en plus de curieux, le nez en l'air. Par la suite, j'ai constaté que le gardien faisait du zèle pour éloigner tous ces badauds qui avaient tendance à prendre notre porte cochère ou notre trottoir sur la 72e pour un lieu public où l'on fait des photos. Mais tout ça n'était rien. Ils se sont mis à recevoir du monde. Comme je l'ai dit, les pièces en enfilade se prêtent à la convivialité. Mais enfin, chez eux, c'était exagéré, à croire qu'ils tenaient des conférences de presse ou je ne sais quoi, un défilé permanent. On était plus tranquille chez soi. Pourtant, le pire était à venir. Ils se sont mis à jouer de la musique. D'abord, de la guitare électrique. Bon, je mettais des bouchons d'oreilles. Ça allait encore. Mais ils chantaient. Enfin, ils hurlaient. Lui, surtout. Un jour, il est venu sonner chez moi. Il fallait pas que je m'affole si j'entendais des cris, me disait-il. Je m'étais plaint en gardien entre-temps. S'était mise au primal scream. Un cri par lequel on renaît. On revit sa naissance, ou je ne sais quoi. Enfin, il m'expliquait ça sur mon palier. Vous connaissez pas le primal scream? Me demandait-il derrière ses lunettes. Mais vous! un taré ordinaire comme on en voit tant dans les immeubles de riches, qui passait ses journées chez lui à se livrer à ses petites expériences.
Mais tout ça va mal finir.
Tout ça va mal finir, me répétait ma mère. Mes amis, eux, ils étaient de plus en plus nombreux à venir boire des bières. Ils traînaient dans le hall, ils attendaient devant l'ascenseur, ils laissaient ma porte ouverte dans l'espoir d'apercevoir mon voisin. Ils me disaient qu'il s'agissait d'un chanteur célèbre.
John Key ?
Me demandait ma mère. Moi, je connais rien dans la musique contemporaine.
Plus connu que le Christ !
Me répétait Marco. Je me demandais si tout le monde n'était pas en train de devenir fou. La guitare, les cris, passent encore. Mais ils se sont fait livrer un piano. Un piano à queue, blanc, monstrueux. Les portes à la française étaient trop étroites. Alors, les déménageurs ont installé une poulie sur le toit. Toute la rue regardait ce piano blanc qui montait en se balançant le long de notre façade. Non, on n'était plus tranquille au Dakota. Les fêtes, la guitare, les cris, ça ne traverse pas encore trop les planchers en ébène et en merisier. Mais le piano, c'est l'enfer. Rien ne résiste au piano. Le piano à queue, surtout, a une caisse de résonance qui devrait être interdite par la loi. Ça descend dans les canalisations. Ça cogne le long des plinthes. Ça passe à travers les bouchons d'oreilles. Ça fait des nappes au plafond et des rideaux dans les murs. Un jour, il y avait des travaux dans la 72e, j'entendais le piano plus fort que le marteau-piqueur. J'ai besoin de calme, moi. J'ai besoin de réfléchir à ma vie. J'aurais eu besoin, je ne sais pas, moi, d'une femme. Peut-être d'enfant. J'imaginais, bien avant déjà que mes voisins n'emménagent, de rédiger une petite annonce. Mais impossible de me concentrer deux minutes. À peine voyais-je se dessiner une silhouette, un avenir, un plan de vie. À peine commençais-je à avoir une idée sur ce que je voulais que... Les premières notes coupaient ma réflexion. Je perdais le fil de ma petite annonce. La femme imaginée s'enfuyait comme un spectre. Et je ne savais plus du tout ce que j'avais prévu de faire. Promener dans le parc, repeindre une plainte, lire le journal. Je me refaisais mécaniquement du café, mais je n'avais plus goût en rien. Ma tête n'était plus que guitare ou piano. Marco m'a offert un disque.
C'est pour que tu meurs pas, idiot.
Un disque en échange de toutes ces bières depuis toutes ces années. Imagine, ça s'appelle. Mais c'était de mon temps.
C'était Le Voisin de Marie Dariussecq, premier épisode, par l'homme de paille.